L'affaire June Hopkins ou l'histoire d'une liaison fatale, épisode 1. Connaissez-vous quelqu'un qui se sent constamment persécuté? Une personne de votre entourage peut-être, de votre famille. Vous avez beau prendre des pincettes pour ne pas la blesser, ça ne manque jamais, vous finissez toujours par être le bourreau et elle, la victime. C'est fatigant les gens comme ça, non? Eh bien parfois, ça peut même devenir dangereux. L'affaire June Hopkins commence par une histoire d'amour. Un Français qui rencontre une Américaine. Un coup de foudre, immédiat. Et puis, très vite, la femme tombe enceinte. Mais alors, pourquoi 18 ans plus tard, elle reviendrait tenter d'assassiner son amant? Comme je vous l'ai dit, le délire de persécution peut parfois aller très loin. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Nous sommes fin août 2010. Dans cette voiture qui roule en direction de la région parisienne, Frédéric se dit qu'elle a bien fait de s'accorder un break de quelques jours avant la rentrée. Frédéric est une femme vive, stable et accomplie. Une femme qui a beaucoup de responsabilités. Déjà, elle a deux jeunes enfants, deux filles. Elle les adore, mais c'est vrai que deux enfants en bas âge, c'est du boulot. Et puis, elle est directrice financière dans une société qui importe du bois précieux d'Afrique. Bref, Frédéric n'a pas une minute à elle. Alors, il y a quelques jours, elle a appelé ses parents, Odile et Gérard, et elle leur a demandé les clés de leur maison de campagne en Normandie pour une pause bien méritée. Le temps est passé vite, mais ça lui a fait du bien. Elle est prête à reprendre son quotidien à 1000 à l'heure. Frédéric est donc en route pour son pavillon de Château, petite banlieue calme et verte, à 10 km à peine de la capitale. On ne sait pas qui la prévient exactement, si c'est Odile, sa mère, ou peut-être Antoine, son frère. Mais vendredi, leur autre frère, Grégoire, a été agressé. Quoi ? Mais par qui ? Frédéric se précipite chez sa mère qui a recueilli Antoine et Grégoire. Quand elle arrive chez ses parents, c'est le silence complet. Ça l'étonne un peu. Dans le salon, Grégoire et Antoine sont là. Ils la regardent sans un mot. Ils sont tous les deux complètement ahuris. Aux enquêteurs, elle dira « prostrée ». Oui, Frédéric a bien fait de se reposer cette semaine, car les 10 années qui vont suivre ne vont lui accorder aucun répit. Que s'est-il passé ce vendredi 20 août 2010 pour laisser ces deux hommes dans cet état ? Je vous raconte. Ce jour-là, Antoine est arrivé en fin de matinée pour déjeuner chez son frère, Grégoire, dans le 11e arrondissement. C'est bien dans l'appartement de Grégoire qu'ils ont rendez-vous. Mais ce n'est plus vraiment ici qu'il habite. Depuis 2 mois, Grégoire est retourné vivre chez sa mère. Pas qu'il ait des problèmes d'argent, mais il a laissé la jouissance de son appartement à June. June Hopkins. June est américaine. Belle femme aux cheveux blonds platine. Elle a le physique de Dolly Parton, l'exubérance de Paris Hilton et peut-être l'aplomb de Donald Trump. Je caricature à peine, mais vous vous ferez votre propre opinion. Et ce personnage haut en couleur ne disposerait pas de tout le relief qui lui est dû si je ne le remettais pas dans son contexte. Le contexte, en l'occurrence, c'est sa rencontre avec Grégoire. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans le train le plus pittoresque du monde. Nous n'en sommes encore qu'au premier épisode de cette saison d'Homicide, mais j'espère que vous êtes prêts à voyager, car il va y avoir beaucoup de trajets. Nous sommes en décembre 1990, à bord de l'Orient Express. Le luxueux train relie l'ouest de l'Europe à Istanbul, en passant par Venise. Sûrement le train le plus glamour qui ait pu exister. Ça lui va bien, ça, à June Hopkins. June a 29 ans. Elle a quitté son mari, Mark Walsh, et son pays pour étudier le droit à Cambridge, en Angleterre. Enfin, étudier, c'est un grand mot, hein. June préfère prendre du bon temps. D'ailleurs, elle a pris quelques jours de vacances de l'université et la voici dans ce train pour l'Est de l'Europe, dans son wagon couchette. Calmez le Hercule Poirot qui sommeille en vous, il n'y aura aucun crime dans ce train. mais la naissance d'une passion amoureuse entre cette blonde plantureuse et le jeune steward qui vient s'assurer que son voyage se passe bien. C'est Grégoire. Il a quelques années de moins qu'elle, mais ça n'a aucune importance. June lui trouve un air de Johnny Hallyday. C'est le coup de foudre. June n'est pas une serial loveuse. Elle a rencontré son mari quand elle avait 16 ans et n'a pas connu d'autre amour. Avec Grégoire, ça va très vite. Après les vacances, elle abandonne ses études, s'installe avec lui à Paris, puis tombe enceinte. Grégoire aussi est fou d'amour pour cet incroyable personnage. Alors il lui fait sa demande. Le ventre de June commence à s'arrondir, il se rend alors à la mairie et il fait une déclaration de reconnaissance de paternité anticipée. Ils s'aiment, ils vont se marier et avoir un bébé. Bref, tout roule. Mais un soir, Grégoire rentre chez lui et June n'est plus là. Elle est retournée aux États-Unis. Elle n'a rien dit à Grégoire, mais June est toujours mariée à Mark Walsh. Et ce voyage est un aller simple. Elle rentre au bercail. Le 5 décembre 1991, alors qu'elle démarre son 9e mois de grossesse, June prend son stylo et écrit à Grégoire qu'elle l'aime, qu'il lui manque beaucoup, mais qu'elle ne veut plus l'épouser. 6 mois plus tard, le Parisien reçoit le certificat de baptême de son fils. Il est né le 7 janvier 1992 à Woodland Hills, en Californie. Il s'appelle Brendan. Brendan Walsh. Oui, Walsh. Comme Mark Walsh, le mari. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre fidélité. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ce 20 août 2010, 2 jours avant que Frédéric ne trouve ses frères complètement abasourdis, nous sommes donc 18 ans après la naissance de Brendan. Brendan est un ado timide, taiseux, peu sûr de lui. L'exact opposé de sa mère. Il vit avec June aux États-Unis, mais en juin 2010, tous les deux débarquent à Paris et sonnent à la porte de Grégoire. Je ne vais pas vous mentir, Grégoire est bien abîmé par tout ce qu'il a traversé. L'amour qui s'envole de l'autre côté de l'Atlantique, la peine alourdie par cette paternité avortée, une vie sans voir grandir son enfant. Mais le passé, c'est le passé. Grégoire souhaite entretenir des relations paisibles avec son ex-compagne et son fils. Il veut que tout se passe bien pendant leur séjour parisien. Ils ne sont pas d'ici, ils ne parlent pas la langue, donc s'il peut leur faciliter la vie, et bien sûr, eh bien, il leur laisse les clés de l'appartement. Et ce midi, c'est prévu, c'est ici qu'ils doivent se retrouver pour déjeuner. Ils ont une discussion importante à avoir, l'avenir professionnel de Brendan. Parce que même quand on est séparés, c'est capital de parvenir à se mettre tous autour d'une table et d'écouter les projets de ses enfants. Bon, alors ils sont là, tous les trois, dans l'appartement. Brendan assis à la table, justement, et les parents font face à lui, installés dans le canapé. Ah, et en plus, il y a Antoine, le frère de Grégoire. Il sent bien qu'il n'est pas le bienvenu d'ailleurs, Antoine. Il y a quelques minutes, June lui a demandé de partir. « Allez, laisse-nous tranquille le temps qu'on discute. L'avenir de leur fils, ça ne le regarde pas. » Mais non, Antoine reste. Il a le sentiment que pour son frère Grégoire, c'est mieux qu'il soit là. C'est fou quand même l'intuition, vous ne trouvez pas ? Bref, Brendan explique qu'il veut faire ses études ici, à l'université américaine. « Ah bon ?» s'étonnent les deux frères. « Mais pourquoi Paris ? Ça n'a pas trop de sens. Même si son père biologique, certes, est français, Brendan a toujours vécu aux États-Unis et depuis qu'ils sont arrivés à Paris, le jeune homme ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il ne connaît personne. Brendan, c'est un grand ado réservé qui a beaucoup de mal à nouer des liens. Alors pourquoi vouloir étudier à Paris ? Les deux Français n'y comprennent rien du tout. Et c'est là, au beau milieu de la discussion, que Grégoire s'aperçoit que ses papiers ne sont plus à la même place que d'habitude. Ces deux locataires auraient-ils fouillé dans ses affaires ? Soyez patients, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais en tout cas, entre les deux ex-lovers, une dispute éclate. Grégoire ne cherche pas les problèmes, il en a déjà assez. Il veut juste que ça se passe bien. Après June, il a rencontré une autre femme, quelqu'un de super, sauf qu'elle voulait des enfants et Grégoire, avec tout ce qu'il avait traversé, il avait trop peur. Alors avoir des enfants, ne pas les voir grandir, les faux espoirs d'amour qui durent toujours, non, il ne pouvait pas revivre ça. Alors il a préféré arrêter et depuis, il vit seul. Mais pour autant, il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Fouiller dans ses papiers, non, ça, elle n'a pas le droit. Puis, tout se passe très vite. June et Grégoire sont toujours assis sur le canapé. Ce dernier ne voit pas Brendan qui se lève de table et contourne le sofa. Il ne voit pas non plus son fils qui se place juste derrière lui. Alors quand il sent qu'on lui verse un liquide sur lui, il ne comprend pas Grégoire. Ça coule de son cou jusqu'à son dos et ça sent fort, un peu comme de l'essence. Derrière lui, il entend un cliquetis. Une fois, deux fois, Grégoire se retourne et c'est là qu'il la voit. La bouteille d'un litre de liquide d'allumage spécial barbecue s'est écrite dessus. Et son fils Brendan qui tient dans la main un briquet. Il ne réfléchit pas et assène un coup à son fils. Brendan tombe au sol et lâche le briquet. Puis il plonge sous le canapé et en sort une sorte de grand couteau ou plutôt un sabre japonais. La lame fait 27 cm. Antoine, le frère qui était parti à la cuisine vider le cendrier, débarque et voit la scène. Il ne comprend rien, mais il ne prend pas vraiment le temps de réfléchir. Il plaque son neveu au sol et saisit son arme. Le temps se fige un instant. Et où est June Hopkins ? June est à la même place, silencieuse, toujours assise sur le canapé. Pendant toute la scène, elle n'a pas bougé. Antoine constate que son frère a le t-shirt trempé et qu'il sent fort l'essence. Il lui dit d'aller dans la salle de bain, de prendre une douche. Et pendant ce temps, il vire les deux convives. Enfin, il les vire à la manière douce. Il est tellement décontenancé, stupéfié, qu'il leur demande de rassembler leurs affaires immédiatement. Il les met dans sa voiture et il les conduit à l'hôtel Ibis de la Porte de Bercy. Antoine paye même d'avance aux deux Américains une chambre double pour 4 nuits. Et puis, il rejoint son frère, qui n'a pas quitté la chambre. Les deux hommes sont sous le choc. C'est à ce moment que Frédéric, leur sœur, de retour de sa petite escapade normande, arrive pour prendre les choses en main. Elle a la tête sur les épaules et pour elle, ça n'a rien d'une bagarre. Non, ses frères viennent de subir une tentative d'assassinat. Ce jour-là, Maître Laurent Poudvigne a rendez-vous avec deux nouveaux clients, un frère et une sœur, Grégoire et Frédéric. Il les reçoit tous les deux dans son bureau. Autant le frère a l'air un peu paumé, autant la sœur paraît très posée. Cette nouvelle cliente s'exprime avec éloquence. Ça lui plaît à Maître Poudvigne. Et c'est donc Frédéric qui lui raconte. L'Orient Express, l'enfant qu'on attend, l'amour qui s'envole et qui finit avec une bouteille d'allume-barbecue et un briquet. Elle explique qu'après l'agression, ils sont allés au commissariat, d'abord pour déposer une main courante, et puis ils sont revenus quelques jours plus tard pour déposer plainte. Les plaintes qui dorment dans les commissariats, il en connaît un paquet, l'avocat. Mais là, c'est très grave. Il va falloir accélérer un peu les choses si on veut qu'une enquête soit menée en bonne et due forme. Alors, il décide de déposer une nouvelle plainte, mais cette fois-ci directement auprès du parquet. Ce sera plus efficace. Maître Poudvigne est plein de bonne volonté, mais la justice française étant ce qu'elle est, ça continue à traîner. Bon, mais l'avocat et sa cliente Frédéric ne sont pas du genre à se laisser faire. Puisque personne ne semble prendre au sérieux leurs affaires, ils vont mener leur propre enquête. Déjà, on ne sait pas si les deux Américains sont toujours en France ou bien repartis aux États-Unis. Et puis, pourquoi Brendan voudrait-il du mal à son père ? Et June, qui n'a pas bougé un orteil pendant qu'il versait de l'essence sur Grégoire. le binôme avocat-cliente marche plutôt pas mal. Frédéric piste June et Brendan sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Maître Poudvigne fait des recherches sur Internet. Il a sa petite routine. Une fois par semaine, il ouvre une page Google et il tape tout un tas de mots-clés. Il ne sait pas trop ce qu'il cherche, mais il ne voudrait pas rater quelque chose. Et c'est là qu'il va tomber dessus. Un banal faire-part de décès. Mais il n'appartient pas à n'importe qui. C'est le faire-part de décès de Mark D. Walsh, le mari de June. Le 6 décembre 2011, Maître Poudvigne passe un coup de téléphone à la juge d'instruction. « Je vous envoie un article intéressant. Lisez-le. » Comment va réagir la juge ? L'enquête va-t-elle enfin démarrer ? Et surtout, que s'est-il passé aux États-Unis ? De quoi Mark Walsh est-il mort ? C'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 2 de l'affaire June Hopkins. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.